RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, les États-Unis commémorent aujourd'hui l'assassinat de Martin Luther King. Il y a tout juste 50 ans, le pasteur à la tête du mouvement pour les droits civiques était assassiné à Memphis. Un demi-siècle plus tard, la ségrégation est un souvenir du passé, mais la communauté afro-américaine reste marquée par un sentiment d'injustice et une réalité, la violence policière s'abat plus souvent sur les jeunes noirs. La communauté est aussi très affectée par la pauvreté. Pourtant, depuis le passage de Barack Obama à la Maison-Blanche, la jeunesse afro-américaine sait que tout est possible. Être noir à Washington, la violence du ghetto n'empêche pas le rêve américain. Grand reportage signé Anne Corpé dans le quartier sud-est de la capitale fédérale.
Je marche pour mon petit ami qui a été assassiné avant même de pouvoir postuler à l'université.
Samedi 24 mars, 9h du matin, dans le quartier sud-est de Washington. Journée de mobilisation contre les armes à feu.
Je marche pour un élève de terminale qui a été tué pour une paire de chaussures Nike Air alors qu'il joue au basket dans le sud-est de Washington. Ma ville n'en peut plus. Trop de ses enfants sont morts. Je m'appelle Lauren et j'en ai assez.
Avant de rejoindre le cortège principal entre le Congrès et la Maison-Blanche, les habitants du Sud-Est ont organisé une pré-manifestation dans leur quartier. Niamar a 12 ans, il succède à Lorraine devant le micro.
Je suis ici aujourd'hui en tant que fier résident du Sud-Est de DC. Nous sommes ici, ensemble, pour exprimer notre préoccupation face à la violence dans notre communauté. Ici, les jeunes font face au racisme, à la pauvreté, à la violence policière. Nous n'avons pas de sécurité et nous nous sentons en danger. Nous sommes en état d'urgence.
Le jeune garçon descend de scène et explique.
Les adolescents tirent sur les autres parce qu'ils veulent blesser les autres avant d'être touchés. Où que tu ailles, il y a toujours un risque. La violence armée m'affecte et affecte ma communauté. Et tu ne sais jamais si tu vas devenir une victime de cette violence.
Ça veut dire que tu as peur tous les jours ?
Oui, c'est ça.
J'aime être noir, j'aime la couleur de ma peau, chantent gaiement les jeunes en s'éloignant vers le centre-ville où des centaines de milliers de personnes sont déjà rassemblées à l'appel des lycéens de Floride. Mais en tête du cortège, Erika Tyne et Tracy Arred, militants du mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent, hésitent entre colère et amertume.
Quand des jeunes noirs sont tués, il n'y a pas cette large couverture médiatique pour évoquer ce qui nous arrive et ce qui arrive à nos enfants. Mais quand ce sont des enfants blancs qui sont tués, alors là on en parle avec une humanité qui ne nous est pas accordée.
On ne parle pas du fait que la police tue des noirs. Un jeune homme noir a été tué la semaine dernière par la police dans son jardin à Sacramento. C'est ça la violence armée. Ce n'est pas seulement quand les jeunes blancs sont abattus. On ne parle pas assez de la communauté la plus affectée, c'est-à-dire la communauté noire.
Depuis le début janvier, 5 adolescents ont été tués par balle à Washington DC. Tous étaient afro-américains. Jay Clarkson est professeur d'histoire dans un lycée du sud-est de la capitale.
En tant qu'éducateur dans cette communauté, c'est malheureusement quelque chose dont je me préoccupe tout le temps. Je m'inquiète quand mes élèves me quittent. Est-ce qu'ils vont revenir à l'école le lendemain? Pas parce qu'ils sèchent les cours, pas parce qu'ils tombent malades, mais parce qu'ils se font tuer.
Comment expliquer que la violence touche autant la communauté noire dans ce quartier de la ville?
Il y a tant de raisons à cela. Vous savez, quand les gens manquent d'éducation et de ressources, cela ne les empêche pas de désirer les choses. Et parce qu'ils veulent ces choses, ils trouvent les moyens de les acquérir. Malheureusement, l'option la plus évidente, c'est la violence. La violence provient du fait que leur vie ressemble plus à un cauchemar qu'à un rêve.
Le mardi matin, on distribue des vêtements dans les locaux de Bread of the City, une association située sur Good Hope Road, la bien nommée rue du Bon Espoir, à Anacostia, au sud-est de Washington. Les familles patientent avant de recevoir leur lot de chemises, pantalons, vestes. Sandra, John et Michelle sont des habitués.
Je viens prendre des vêtements toutes les deux semaines. J'ai besoin d'aide et parfois je viens chercher de la nourriture. J'ai des bons alimentaires, mais quelquefois je dois compléter. Ce quartier a besoin de plus d'aide fédérale pour la nourriture parce que beaucoup de gens se couchent le ventre creux. Et les enfants sont élevés par des mères qui n'ont pas les moyens de les nourrir et ils vont au lit sans avoir rien mangé.
Je viens environ tous les mois, je touche une petite allocation handicapée et ils m'aident ici. Je ne vais pas beaucoup dans les magasins d'alimentation, je viens ici chercher de la nourriture tous les mois. C'est dur de trouver du boulot, beaucoup de gens sont au chômage ici. Moi aussi, je cherche du travail.
Ils nous offrent une aide précieuse ici, mais il faut des locaux plus grands. Ils ont besoin de plus d'espace.
Ça veut dire qu'il y a plus de besoins ?
Oui, cette communauté est abandonnée. Ce quartier est laissé de côté. Ici, les gens se sentent abandonnés.
Nous rencontrons Jason Muhammad un peu plus bas, au coin de deux avenues. Il a grandi dans un quartier déshérité de Chicago, mais s'en est sorti, dit-il, car il était bien entouré. Aujourd'hui, Jason est professeur de maths dans le sud-est de Washington. Il surveille ses élèves de près et va même leur rendre visite chez eux lorsqu'il manque les cours.
La plupart d'entre eux vivent grâce au seul salaire de leur mère. Ils bénéficient d'une aide sociale. Beaucoup d'entre eux ne connaissent personne qui a fait des études. Ils ne connaissent pas d'homme qui n'a jamais été en prison. Il n'y a donc aucune figure masculine dans leur entourage qui représente un mode de vie positif. Et quand la pauvreté est si profonde et si ancrée dans la communauté, la préoccupation principale de beaucoup est simplement de manger. Ils veulent juste se nourrir, donc ils ne se sentent pas trop concernés par le fait d'avoir de bonnes notes. Ils ont faim. Ce sont de réelles préoccupations pour nos élèves et cela empoisonne le sud-est de DC. Je trouve ça juste terrifiant de voir toute la pauvreté qu'il y a à quelques rues de la Maison-Blanche.
Au coin de la 13e rue et de Good Hope Road, quelques jeunes stationnent entre une laverie automatique et l'arrêt de bus. Sushi suit d'un regard blasé la voiture de police qui remonte la rue. À 23 ans, il se présente comme le chef de la petite bande qui campe à ce carrefour toute la journée.
On vit dans la pauvreté. 30 personnes qui dorment dans le même appartement, c'est courant par ici. Ça nous rend fous. On devient fous, on se réveille en colère. On est obligé de rester au coin de la rue pour gagner de l'argent. On n'a pas de boulot, on n'a pas de parents à la maison.
Donc vous faites quoi pendant la journée? Vous n'avez pas de travail?
C'est ça notre travail. C'est notre boulot. Vous voyez ce qu'on fait? On vend de la drogue, c'est tout ce qu'on peut faire. On se lève le matin et on reste au coin de la rue jusqu'à ce qu'on ait vendu assez de drogue pour remplir nos poches et nos estomacs. C'est dur, on doit se battre pour survivre dans la communauté noire.
Vous vendez de la drogue pour vous nourrir?
Oui, pour l'argent, la nourriture, les habits. Sans ça, tu te retrouves à la rue affamé. Pourquoi vous pensez que les jeunes ne sont pas à l'école? Parce qu'ils n'ont rien à manger chez eux. Donc l'école ne les mènera nulle part. Ils doivent venir vendre cette putain de drogue pour ne pas être dans la merde. Comment tu manges? Comment tu survis si tes parents ne s'occupent pas de toi? Tu dois te prendre en charge, tu dois te débrouiller tout seul.
À quel âge vous avez arrêté l'école?
J'ai quitté l'école quand j'avais 15 ans. Vous savez, quand je rentrais à la maison, il n'y avait rien à manger. Je n'avais pas de vêtements corrects. Ma mère fumait du crack. Mon père était absent. Donc qui pouvait m'apprendre la vie? Qui pouvait me montrer le chemin? La rue? Le sud-est? C'est ça qui m'a montré la voie.
Sushi a déjà séjourné en prison. Les risques du métier, surtout quand on est noir, commente-t-il. Car la population afro-américaine est surreprésentée dans les geôles aux États-Unis. Sohrab Sarkar, chercheur à l'Institut pour les études politiques à Washington.
Il y a un énorme problème de la violence du système judiciaire et criminel à l'encontre des Noirs, qu'il s'agisse de policiers qui tirent sur des Noirs ou de la criminalisation des Noirs. Il y a 1 600 000 personnes en prison aux États-Unis aujourd'hui et quelque chose comme 60 à 70% d'entre eux sont des gens de couleur dont une large majorité est noire. Il y a des disparités dans les condamnations, il y a des disparités dans les arrestations. Les individus noirs sont beaucoup plus souvent contrôlés dans la rue par la police que les autres. Ils restent en prison plus longtemps, ils écopent de la peine capitale plus souvent. C'est vraiment sur tous les tableaux que le système judiciaire est utilisé comme une arme contre les Noirs et les autres personnes de couleur aux États-Unis.
Cela ne signifie pas qu'ils commettent plus de délits.
Non, je ne pense pas que c'est parce que les Noirs commettent des crimes à un taux plus élevé que les Blancs ou que tout autre groupe de gens. Le système les vise. Par exemple, les Noirs consomment de la drogue dans les mêmes proportions que les Blancs, mais ils sont incarcérés de manière beaucoup plus fréquente pour la consommation de drogue.
Ce mardi soir, une réunion de la PACA, la Pan African Community Action, se tient au sous-sol de la bibliothèque de Good Hope Road. L'organisation se dit anticapitaliste, antiraciste et tente de fédérer les habitants autour de l'idée d'une police communautaire. Queen, 29 ans, vient pour la première fois.
Je suis venue voir ce qui se passe, m'informer sur la manière de construire un avenir positif pour les gens de couleur. Donc je viens ici pour commencer à créer des solutions. Il y a la pauvreté, la brutalité policière qui nous affecte. Donc je veux faire ce que je peux pour contribuer à résoudre ces problèmes. J'ai deux enfants de couleur et je dois protéger mes enfants. Si vous voulez du changement, il faut agir et j'incarnerai le changement pour mes enfants.
Vous pensez que le fait qu'ils soient noirs place d'emblée vos enfants dans une situation plus difficile que les autres?
Absolument. Je pense qu'ils ont été menacés à la minute où ils sont nés. On est dépeints comme des vandales, comme des gens en colère et ce n'est pas ce que nous sommes. Tout ce qui se rapporte aux gens de couleur est décrit comme quelque chose de négatif.
Rachid Van Putten, membre de l'organisation PACA depuis 2 ans, renchérit.
Definitely not the most comfortable when I'm around a lot of white people in a white area.
Je ne me sens définitivement pas à l'aise quand je suis entouré de blancs dans un quartier blanc. Même si je porte une belle chemise et que j'ai un beau sourire, ils sont intimidés par la couleur de ma peau et le style de mes cheveux. Je représente une menace pour eux. Même si je m'exprime correctement, je représente une menace pour leur sécurité.
Notre problème, ce n'est pas le racisme. Notre problème, c'est le pouvoir.
Notre problème, c'est le pouvoir.
Nefta Freeman, responsable de l'organisation PACA.
Je pense qu'on ne doit pas trop se préoccuper du racisme, car c'est un sujet sur lequel on ne peut pas agir. Nous devons intervenir en priorité dans les domaines sur lesquels notre communauté peut effectivement agir. Nous devons nous concentrer sur les projets que nous pouvons développer, dans les domaines de la prévention de la criminalité et de la violence, par exemple. Cela signifie qu'il faut d'abord nous rassembler pour déterminer ensemble des solutions, trouver les mesures qui élèveront notre condition. Nous ne sommes pas assez organisés, et c'est un symptôme de l'oppression. Nous devons nous battre contre cela. Souvent, on entend des membres de la communauté dire « les Noirs ne savent pas s'unir, on ne peut pas faire cela ». Et c'est une mentalité contre laquelle nous devons nous battre. Les Noirs doivent savoir qu'ils ont un héritage glorieux. Nous avons lutté contre l'oppression dans ce pays. Les gens doivent comprendre cela, en tirer de la fierté, et ce sera le début de leur transformation. C'est cela que nous devons faire. Oui, nous avons des complexes d'infériorité qui sont le résultat de notre condition, mais ils ne sont pas irréversibles. Ils peuvent être surmontés.
Lutter contre la fatalité, convaincre les jeunes noirs qu'ils peuvent défier les déprimantes statistiques du quartier, c'est l'ambition du National College and Prep, un lycée du sud-est de Washington. Byron Broder, conseiller d'orientation, appelle cela l'éducation positive et il est persuadé de son efficacité.
Nous encourageons nos jeunes à rêver et à rêver grand. En tant qu'éducateur, on les encourage à rêver grand. Je dis tout le temps aux enfants, tu vas réussir mieux que moi, tu vas gagner beaucoup plus d'argent, tu vas avoir beaucoup plus de succès. C'est à cela qu'on te prépare. Il y a de plus en plus de jeunes noirs qui font des études et c'est un encouragement. Si tu t'entoures de gens positifs et qui te soutiennent, tu t'en sortiras, d'où que tu viennes. Ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens, c'est où tu veux aller. Quelles que soient les circonstances, si tu vois grand et que tu es prêt à faire des sacrifices, tu peux améliorer ta situation. tout va changer. Je veux dire, les terrains de la capitale ont beaucoup trop de valeur pour qu'on les laisse sous-développer. Donc, avec ce développement, le changement va venir. Ceux qui décident de ne pas suivre le mouvement seront peut-être laissés de côté. Mais pour ceux qui saisissent l'occasion pour avancer, ce sera formidable.
It's going to be a great day.
Au coin de l'avenue Martin Luther King Jr. et de Good Hope Road, le centre artistique d'Anacostia illustre la lente gentrification du quartier. Il abrite un café, une salle de spectacle, quelques boutiques, dont une librairie spécialisée dans la littérature et l'histoire des minorités. Elle est tenue par Ramunda et Derek Young.
Il n'y avait plus de librairie dans le quartier depuis plus de 20 ans, donc c'était important pour nous d'être ici. C'est la communauté que l'on aime, on devait être ici. Nous vendons des livres sur la diaspora africaine et sur les autres personnes de couleur, les latinos, les asiatiques, les indiens. On est tous ensemble dans cet espace. Dans la plupart des librairies, ces livres, ces auteurs sont rarement vus, mais ici, ils sont sur les étagères. Ce sont des livres sur notre communauté pour notre communauté, parce qu'elle est sous-représentée dans beaucoup d'endroits.
Dès le début, on a été très clair là-dessus. On voulait être sûr de couvrir un large pan de l'histoire pour que les Afro-Américains qui ne la connaissent pas, parce qu'ils ne l'apprennent pas à l'école, puissent venir chez nous et trouver des livres qui évoquent l'histoire d'Haïti, de l'Éthiopie et du Nigeria. C'est un moyen pour nous de retrouver nos racines, notre histoire, et pas seulement la connaître en surface. Je peux m'asseoir ici, lire des livres et en parler ensuite à ma fille pour lui donner les preuves qu'elle vient d'un peuple bien plus ancien que les Afro-Américains, dont l'histoire commence avec l'esclavage. Et c'est très important quand on parle d'émancipation, de confiance en soi, de connaître le passé brillant des Afro-Américains en dehors de la lutte pour les droits civiques et l'esclavage. Parce que nous devons cesser d'appliquer ces stéréotypes sur nous qui guident la manière dont on nous traite.
Sherry Brooke feuillette les livres pour enfants dans la librairie. Elle enseigne les arts plastiques à l'école élémentaire du quartier et se souvient avoir appris à lire dans un manuel qui ne comportait aucun enfant qui lui ressemblait.
Quand j'étais petite, il y avait très peu de personnages noirs dans les livres. Notre vie de tous les jours n'était pas représentée. Automatiquement, parce que nous voyons tous les jours ces personnages et qu'aucun d'entre eux n'était noir, nous recevions le message subliminal que les noirs n'étaient pas importants. Mais maintenant, les enfants noirs ne sont plus mis de côté. Ils sont les personnages principaux de ces livres. Et ces représentations sont très importantes.
De l'autre côté de la rivière, au cœur de Washington, la Galerie nationale des portraits attire des foules inhabituelles. 7000 visiteurs pour ce week-end de mars, l'équivalent de la fréquentation normale mensuelle du musée. Tous veulent voir les portraits officiels de Barack et Michelle Obama, premier couple présidentiel noir de l'histoire américaine. Norma Ellington est venue avec sa petite fille, Glenn Tirak. Elles se prennent mutuellement en photo devant le portrait de Michelle Obama.
Il y a quelque chose là qui dit « Je suis belle et tout est possible pour moi ». Quand j'étais petite, je n'avais pas cela. J'ai grandi sous la ségrégation. Mais pour ma petite fille, il y a tellement plus de possibilités. J'ai eu des parents merveilleux, mais je n'ai pas eu de Michelle Obama. Je n'avais pas cela. Et nous ne rêvions même pas qu'un noir puisse devenir président. Mais pour ma petite fille, cela signifie tant de choses d'avoir Michelle Obama.
C'est vraiment incroyable à quel point les choses ont changé. Maintenant, les noirs ont le pouvoir et nous pouvons changer le monde. J'ai l'impression que tout est possible. Peut-être que je serai la prochaine présidente. Je peux tout faire.
Selon une étude menée par l'université de Harvard, les garçons noirs ont plus de chances de devenir pauvres à l'âge adulte que les blancs, même s'ils sont élevés dans une famille très riche. Mais pas les filles, qui, avec un niveau social de départ équivalent, obtiennent les mêmes conditions de vie à l'âge adulte, quelle que soit la couleur de leur peau. Une bonne nouvelle pour les petites filles noires qui viennent admirer le portrait de Michelle Obama. Être noir à Washington, la violence du ghetto n'empêche pas le rêve américain. Un reportage signé Anne Corpet, à la réalisation Pauline Leduc.